Bonjour, alors moi je suis Grégory Ben Sadoun, tous mes copains ils sont pas là, donc je vais présenter tout seul. Donc je vais vous parler du projet AsGame, c'est un projet de serious game, de jeu vidéo, adapté pour la maladie d'Alzheimer. Donc je l'ai dit, c'est pour favoriser le maintien et l'autonomie des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou pathologie associée, mais aussi pour former les aidants professionnels ou les aidants familiaux. Donc c'est un projet qui est en collaboration avec trois partenaires. Moi, j'appartiens au laboratoire Coptech, qui est un laboratoire scientifique, on va dire, plus axé médecine et recherche. On est avec l'INRIA, qui fait de la reconnaissance du mouvement, qui sont des universitaires, universitaires aussi. Et nous travaillons avec des spécialistes du jeu vidéo sérieux et des supports multimédia, le groupe Genius et l'INRIA, qui sont des consultants pour l'INRIA. Donc on a trois cibles de ce projet. Moi, je vais plus détailler la première cible. Donc, des serious games adaptés pour mesurer l'évolution de la maladie et favoriser l'activité physique, cognitive et sociale. Je vous expliquerai rapidement pourquoi, parce que je préfère aujourd'hui prendre plus les aspects théoriques sur le jeu vidéo. La méthode, on va dire, que la maladie en elle-même, bon, ça commence à se démocratiser, les définitions. Et pourquoi on fait du physique, cognitif et social. Des serious games de formation, donc là, on est dans le e-learning, pour les aidants professionnels. Un peu plus général, moins spécifique à Alzheimer, mais ça s'y prête aussi. Et le troisième volet, c'est un dispositif de formation. Donc là, on sera un peu moins dans du serious game tel qu'on peut le définir aujourd'hui. Là, c'est plus pour accompagner les aidants familiaux. Donc, vous avez le petit plan à gauche pour suivre. Donc là, je parle de la version patient. Je vais m'attarder un peu dessus. Et je vais plutôt aujourd'hui montrer la méthodo et sur quoi on s'appuie, quels sont les à la fois d'un côté du gameplay et à la fois du côté scientifique, comment on fait le lien entre les deux. Donc notre recette de cuisine, c'est qu'on est parti déjà des grands modèles de jeux vidéo qui existent pour le grand public. Donc les modèles, je les citerai plus tard, mais jeux d'action-aventure, jeux de stratégie, voilà, ce genre de modèle-là, très sommaire. Ce qu'on a fait à partir de ces modèles, on s'est lancé sur des jeux vidéo et on a adapté le gameplay aux patients. Parce qu'il faut beaucoup adapter pour les patients Alzheimer. En plusieurs points, on a adapté le scénario, comme vous utilisez souvent le terme, par rapport au scénario pédagogique, pour motiver, stimuler efficacement, surtout le scénario pédagogique pour les fonctions cognitives, mais aussi pour l'éducation. On a adapté l'ergonomie du jeu aux patients. Vous pensez donc, on fait un jeu vidéo d'activité physique, forcément, on ne va pas jouer avec une manette, on va jouer avec une Kinect. On a donc modifié les commandes de jeu, ça reprend l'exemple que j'ai mis tout à l'heure, et adapté l'interface de jeu pour favoriser les échanges sociaux. Parce que dans notre problème, dans la maladie d'Alzheimer, on a un problème d'apathie, donc c'est une absence, une perte d'initiative et de motivation. Et donc, il faut adapter aussi pour générer de la motivation, pour générer l'envie aussi d'aller vers les autres, de jouer avec les autres. Donc on est obligé de tout adapter finalement dans le jeu vidéo avec ce type de population, et c'est assez intéressant sur la théorie, est très difficile à montrer des effets sur la pratique. Donc c'est un beau challenge. Au niveau des objectifs, alors là je suis un peu plus dans le concret scientifique, les objectifs physiologiques, c'est la neuroplasticité. La maladie d'Alzheimer, tout le monde la connaît, c'est une maladie qui atteint dans un premier temps la mémoire, puis ensuite d'autres fonctions cognitives, et dans les délais les plus longs, ça aboutit à... vulgairement, quelqu'un qui ne peut plus rien faire, mais c'est ça, on perd les fonctions d'organisation, de planification, les fonctions motrices, on perd tout, petit à petit, malheureusement. Et en fait, ce qui se passe, le gros facteur de cette maladie physiologique, c'est que vous avez des plaques séniles, et vous avez des neurones qui se désagrègent, et ce sont, donc, on appelle ça une atrophie cérébrale, et c'est cette atrophie cérébrale qui va générer toute la désorganisation du corps. C'est vraiment, dans les modèles récents, on est plus sur une approche de vieillissement pathologique, à mon goût, que d'une maladie assez fataliste, même s'il y a une part génétique pour certains patients. Et donc, la conséquence de la maladie, c'est l'inverse de ce qu'il y a ici, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est un processus physiologique adaptatif et dynamique. C'est en fait l'évolution du cerveau, la neuroplasticité. Quand le cerveau évolue, on appelle ça neuroplasticité, dans le bon sens. Mauvais sens, on appelle ça atrophie cérébrale, pathologique, etc. Donc, contrainte par des limites biologiques, c'est nos limites internes à nous, notre fonctionnement biologique, et environnemental, c'est ce qu'on fait dans l'environnement. Et donc là, l'environnement, dans notre contexte, il nous intéresse. Donc cette neuroplasticité, quatre facteurs, neurogénèse, création de nouveaux neurones, amélioration du fonctionnement neuronal avec les synapses, etc. Angiogénèse, c'est la croissance du réseau vasculaire qui est très important dans le cerveau parce que c'est lui qui amène les nutriments au cerveau. Résistance à l'apoptose, c'est résistance à la mort des neurones. Et le quatrième facteur de neuroplasticité, c'est régulation des facteurs neurotrophiques. Ça, c'est tout ce qui est hormones, messagers neuronaux, qui vont par la suite déclencher des cascades de création de nouveaux neurones, création de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc l'objectif, il est là. C'est l'objectif pour les patients, c'est de créer de la neuroplasticité. La méthode. Deux hypothèses. Donc là, on rentre un peu plus dans le scénario pédagogique, mais très décontextualisé du jeu que je vais vous présenter après. Là, c'est juste pour montrer la méthode. Dans la littérature, on a deux hypothèses. L'hypothèse métabolique, fondée par Dussmann, c'est que l'augmentation intensive de l'activité cardio-respiratoire, donc l'activité plus vulgairement aérobie ou l'activité d'endurance, en gros quand vous courez, à un certain temps, pas un sprint, mais plutôt des activités d'endurance, elle permet d'augmenter le flux sanguin cérébral, ce qui amène les nutriments au cerveau, donc meilleure oxygénation, régulation du métabolisme des glucides, et derrière tout ça, on a une cascade métabolique qui va aboutir à une meilleure résistance au stress oxydatif, une meilleure gestion hormonale, et au final, une croissance cérébrale, avec tout ce qui est activation de la création du réseau neuronal. La deuxième hypothèse, c'est l'enrichissement cognitif. Par Herzog, c'est que tous les comportements, tout ce qu'on fait, et ça, c'est vraiment on est sur le contexte externe, tout ce que l'on fait dans la vie a un impact sur notre cerveau. Je fais rien, mon cerveau il s'atrophie. Je fais quelque chose en fonction de l'efficacité de ce que je vais faire, le cerveau il va fonctionner. Donc c'est les activités cognitives, l'exercice physique et l'engagement social. Et ce qu'il faut savoir, ce qui n'était pas défendu il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est sûr, c'est que de la naissance jusqu'à la mort, ces processus ils sont actifs. C'est-à-dire on n'arrive pas à 60 ans et le cerveau n'est plus capable de faire de nouveaux neurones. On a des processus de vieillissement qui nous handicapent petit à petit, mais on est toujours capable de créer de nouveaux neurones, on est toujours capable d'améliorer ses fibres musculaires. Le corps, tant qu'il vit, il est capable d'évoluer. Donc, impact direct sur le niveau de cognition. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse pour nos patients. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Nos méthodes, c'est l'activité physique, cognitive, favoriser l'engagement social pour développer et combattre la maladie. Ça marche chez l'animal, mais ce sont des modèles animaux. Chez les patients, ça retarde énormément, voire on a des bienfaits sur les fonctions cognitives et physiques. Donc nos Serious Games, ils ont deux approches. La première, c'est une approche d'évaluation. Donc on va évaluer, grâce aux Serious Games, par des validations scientifiques, parce que ce qu'il faut, c'est montrer le transfert entre des tests que l'on connaît déjà dans le médical scientifique et des tests dans le jeu vidéo. Donc l'aptitude physique, cardio-respiratoire, le TDMC, c'est un test de marche sur 6 minutes pour les personnes âgées, c'est un test validé scientifiquement. Donc on va essayer de le conceptualiser dans le Serious Game que l'on intègre. Fonctionnel, c'est le Time Up and Go, c'est le temps de marche en fait que vous mettez sur 10 mètres. Qui est bien corrélé avec l'espérance de vie, on va dire. Fonction cognitive, on a pris des tests cognitifs et on va les scénariser, les valider, montrer leur efficacité par rapport aux tests normaux. Donc là, j'ai mis le Train Making Test, le TMT, c'est le test où il faut relier des points de 1 à 25 qui sont placés plus ou moins aléatoirement sur une carte et on regarde le temps. Il y a d'autres tests, hein, il y en a plus qu'il en faut. Et au niveau du comportement, les perceptions d'utilisation, donc là, par contre, on sort du Serious Game, c'est plus pour voir vraiment est-ce que les Serious Games pour cette population, ils sont utilisables, donc d'un point de vue fonctionnel, quand les personnes vont jouer, mais aussi d'un point de vue psychologique, lié à la personnalité de la personne, lié à l'intérêt qu'elle y porte, etc. Et donc là, le but, grâce à nos Serious Games, c'est de suivre déjà l'évolution de la maladie. Le plus important, c'est l'entraînement. Donc, dans la préparation physique, on utilise ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort. Le réentraînement à l'effort, la méthode, elle est simple. Dans les Serious Games, la personne va jouer et en fait, ça va être un entraînement. Augmentation progressive de la durée des séances, c'est-à-dire que la personne, au plus elle va jouer, au plus elle va devoir jouer. Augmentation progressive de l'intensité d'effort. Donc d'un point de vue méthodique, on va de l'effort modéré court, parce que nous, on est assez jeunes, on peut aller taper un sprint dehors. Les personnes âgées, il faut d'abord les préparer. Et c'est là où est l'enjeu du Serious Game, c'est d'apporter une méthodologie pour ces personnes, pour les thérapeutes aussi, puisqu'il faut un thérapeute systématiquement. Alternance d'exercice physique et exercice cognitif dans notre Serious Game, c'est le deuxième point de notre méthode. Donc, travail simultané quand les tâches cognitives elles sont simples. C'est très simple. Quand vous marchez, toutes les actions que vous faites sont orientées vers un but. Dans un jeu vidéo, quand on va d'un endroit à une carte ou une autre, c'est de la planification. Même si elle est simple, c'est de la planification. Ce qui est bien dans ce genre de tâche, c'est qu'on peut mettre une activité physique intense derrière, même au niveau cérébral. L'intensité d'effort favorise, à un certain degré, mais quand on est dans de l'aérobie intense, ça favorise les choix. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, quand on fait beaucoup d'activités physiques, ben, le serious game va permettre d'introduire de l'activité cognitive. Travail intermittent quand tâche cognitive complexe, vous allez voir que les modèles de jeu qu'on a, c'est on va à un endroit, on a une mission, on va à un endroit, et à cet endroit, on va faire une tâche. Une tâche qui est incorporée au scénario de jeu, qui a un sens dans le scénario de jeu, mais qui est inspirée de tout ce qui peut faire fonctionner votre cerveau de manière efficace. Au passage, les jeux vidéo, de manière générale, quels qu'ils soient, ont des effets sur la croissance cérébrale. Tous les jeux vidéo auxquels vous jouez, StarCraft, Rise of Nation, les jeux de FPS, ils ont déjà des effets. Donc c'est intéressant aussi d'utiliser le jeu vidéo parce que il y a des effets qui sont déjà montrés dans la littérature sur la cognition. Donc le jeu, hein, je vais vous le présenter. Donc c'est un jeu de bataille navale. Le type de jeu, le modèle qu'on a utilisé derrière, c'est le MMORPG. Donc c'est les jeux multiplayer massifs en ligne. Sauf qu'au lieu d'avoir des personnages, on a un sous-marin. On est parti d'une version que nos partenaires ont développée, une version grand public X-Torp. À partir de cette version grand public et sur clavier souris, on adapte tout ce que j'ai présenté au début dans la conception pour avoir une version patient. Donc une version Kinect avec un design assez épuré, avec des objectifs et des scénarios un peu différents, mais en restant quand même dans le cadre de jeu et dans les dynamiques de jeu de la version grand public. Bon, je vais commenter 2-3 parce que là c'est juste une vidéo d'ouverture, je vais donner 2-3 commentaires. Et je finirai par une diapo. Donc là, c'est juste pour montrer
j'ai un peu perdu la mémoire.
Le design. Parce que c'est vrai que très théoriquement, on s'attend à...
Surtout quand on me propose
demande, on s'attend comme jeu, il parle avec beaucoup de théories, beaucoup de termes scientifiques.
Après d'effroyables bombardements atomiques, une catastrophe thermique réchauffe l'atmosphère et provoque la fonte des glaces polaires. Aujourd'hui, les continents ont disparu. Seuls émergent quelques îles et des contrebandiers sans scrupules sillonnent les océans.
Donc là, voilà, là vous avez à peu près le design du jeu. Donc là, c'est juste une petite séquence pour montrer. Mais en fait, ce que vous allez faire, comme dans la MMORPG, vous vous déplacez. Vous avez une carte, vous vous déplacez, vous allez d'île en île, vous allez affronter d'autres personnes, vous allez coopérer avec des personnes, dans les îles, vous allez faire des missions. Et pour l'activité physique, quand vous voulez faire avancer votre sous-marin, vous marchez sur place. Chez les personnes âgées, de marcher sur place, ça active le métabolisme cardio-respiratoire à 50%, une intensité modérée. Ce qui a déjà d'un point de vue scientifique des effets prouvés sur la plasticité cérébrale, même chez les populations atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pour vous orienter, vous tournez les bras, vous orientez avec les bras, lancez les missiles, comme il a montré tout à l'heure, vous vous déplacez. Donc il n'y a pas beaucoup de commandes, parce que le but, ce n'est pas non plus d'avoir une grosse gamme de commandes, mais des commandes simples, compréhensibles et qui stimulent toujours la personne, de manière à stimuler le métabolisme aérobie. Et en même temps, grâce aux dynamiques du jeu, ben, on a des enjeux. Donc déjà, on va avoir un travail cognitif simple. Et aussi, par exemple, là, il y a une image de ville. La personne, bon, là, on ne va pas le montrer, mais elle va aller dans la ville. Et dans la ville, elle a des missions, des tâches. Elle veut gagner des bonus, améliorer son niveau général de jeu, etc. Les mêmes dynamiques un peu que les MMO, en plus simplifié parce qu'on n'a pas 10 ans et 40 milliards de sous pour faire un jeu. Mais le but de ce jeu, voilà, c'est ça. On a repris le concept MMO, on l'a adapté pour que les patients puissent y jouer, pour aussi masquer le fait que ça soit de l'évaluation, parce que le problème avec la population Alzheimer et l'apathie, la perte d'autonomie, c'est aussi la frustration. Donc là, à l'inverse des fois du serious game où on montre tout le temps où est-ce qu'on fait faux, où est-ce qu'on a tort, on essaie d'y mettre des pincettes. Parce que le problème, c'est qu'à quelqu'un déjà qui perd ses fonctions en fonction de son statut de maladie, qui peut ou pas s'en rendre compte, si on va lui dire « t'as pas réussi, t'es nul », ah ben là, il joue une seconde et c'est terminé. Par contre, si on l'encourage à réessayer, c'est la manière de s'adresser à lui. Il change et logiquement, ça marche. On a un deuxième jeu. Alors là, c'est juste pour le présenter rapidement. On s'est basé sur l'univers des GTA-like, en moins violent, bien sûr, parce que sinon, on va les traumatiser. Les GTA-like, pour ceux qui ne savent pas, c'est les jeux comme Grand Theft Auto, où on est dans un sandbox, un environnement libre. Là, j'ai expliqué direct rapidement les petits mouvements. C'est liberté de mouvement, carte délimitée, scénario sous forme de mission. Et en fait, la personne, le patient, accompagné du thérapeute, va progresser dans un scénario qui est prévu pour faire de l'entraînement progressif. Ça va lui montrer comment aussi se prendre en main, mais c'est surtout suivre un scénario de jeu. Et là, pareil, d'un point de vue divers, on essaye de quand même rester énormément dans le divertissement, parce qu'on a vu que chez des populations comme ça, ou des populations qui avaient un handicap, le divertissement est plus important que l'aspect éducatif. Et le but du jeu, c'est surtout la prise en charge, et a posteriori, de la prévention. Voilà. Donc, le deuxième jeu, c'est comme un grand F Toto, pour ceux qui voient. Je n'ai pas d'image, parce que pour l'instant, je n'ai pas le droit d'en divulguer, et c'est en cours de validation. Voilà. Je pense que ça suffit pour ça.
Merci Grégory.
De rien. Votre jeu, là, ça s'appelle pas « Qui veut gagner des neurones hein ?»
Non.
Non, parce que sinon, ça pourrait passer à la télé le dimanche soir. Moi, franchement, je suis, je suis effaré par ce que vous avez fait sur la maladie d'Alzheimer. Vous parlez d'activité physique. Tous les mardis à 15h, dans un jeu qui était celui de Madame Annie Girardot, à Cannes, on a des groupes de 25 à 30 patients qui viennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Du tai chi. Vous connaissez le tai chi?
Oui, oui.
Non, parce que c'est vos trucs, là, vos mouvements, etc. Ça suffit. Parce que la captation de l'attention des maladies d'Alzheimer, ça dépend des degrés, c'est 2 à 3 minutes. Maximum. Alors, je sais pas comment vous arrivez à faire tomber des bateaux avec des gestes, quand même, qui réclament une réflexion. Et puis, la musique, elle est très anxiogène. Parce que la maladie d'Alzheimer, il y a quelque chose qu'ils aiment bien, c'est la musicothérapie. Quand ils sont vieux, ils ont des séquences de l'accordéon, des tas de choses, si vous voulez, la question est que ce truc est nul. Voilà.
Okay. Alors, c'est souvent la réflexion qu'on peut avoir à 50% quand on fait un jeu vidéo, parce que ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, on peut être convaincu, on ne peut pas être convaincu. Le tai chi, c'est un bon exemple, parce que je le connais bien. C'est une activité complexe. Sans s'en rendre compte, quand vous faites du tai chi, vous stimulez vos muscles et votre fonction cardio-respiratoire à une certaine intensité. C'est une activité orientée vers un but qui crée donc des problèmes cognitifs à résoudre et que vous allez faire. Au niveau de la jouabilité de ce jeu, c'est exactement les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on fait des mouvements simples. On n'est pas là pour rendre fous les patients. C'est des mouvements simples. On a testé sur un autre jeu des mouvements similaires sur des populations qui avaient des troubles cognitifs légers, ce sont des patients MCI, c'est le stade prédémentiel, si on peut appeler ça comme ça, sur des personnes âgées saines, ça fonctionne. Après, la motivation est propre à chacun. Dans notre projet de recherche, on s'intéresse aussi à cette motivation. Et une piste qu'on a, c'est que c'est plus lié, c'est lié aussi aux jeux vidéo, le choix qu'on fait dans le jeu vidéo, c'est pour ça qu'on en fait plusieurs, mais c'est aussi lié à la personnalité. On essaye aujourd'hui, dans des populations âgées qui n'ont pas d'éducation de jeux vidéo, de les faire jouer aux jeux vidéo. Donc l'enjeu, c'est de savoir l'utilisabilité perçue, aussi bien au niveau de l'intérêt, aussi bien au niveau de la compétence perçue, de l'efficacité perçue, et de la personnalité de la personne. Par exemple, vous avez un test de personnalité, le Big Five, où vous avez un paramètre qui est important, c'est l'ouverture à l'expérience. Ceux qui ont plus d'ouverture à l'expérience en termes de personnalité ont plus, logiquement, d'ouverture à de nouvelles choses, dont le serious game. Donc là, c'est vrai, vous pouvez ne pas être du tout intéressé. C'est pas la première fois que j'ai cette réflexion. C'est pour ça qu'on crée plusieurs jeux. C'est pour ça que dans notre laboratoire, on ne fait pas que ça. Mais ça peut intéresser une partie. Ça intéresse vraiment une partie.
Y a-t-il des tests scientifiques pour prouver que ce jeu est efficace, ou en tout cas, y a-t-il un protocole qui est mis en place ou qui va être mis en place, peut-être?
Le protocole est soumis. Il est en train d'être révisé. Parce que nous, le but, c'est de montrer que c'est utilisable. Mais d'un point de vue scientifique, la méthode qu'on utilise derrière, donc les méthodes d'entraînement cognitif, les méthodes d'entraînement physique, elles ont déjà une littérature construite derrière. L'entraînement physique, énormément, chez les animaux modèles, mais aussi chez les patients Alzheimer. Bien évidemment, on est sur une population atteinte au stade léger, là où il y a quand même une autonomie, parce que le stade, et là, vous avez raison, pour les stades les plus modérés à avancer, il y a un serious game de jeux vidéo qui est assez intéressant sur la musique. Mais pour le stade léger, il y a encore de l'autonomie, on peut encore se permettre. Donc bien évidemment, on est obligé de cibler. Mais d'un point de vue scientifique, les jeux vidéo, chez les personnes âgées, exergame ou jeux vidéo classiques, ils ont des effets. Chez les populations Alzheimer, entraînement cognitif, entraînement cérébral, ils ont des effets.
On va prendre une deuxième question, Grégory. Oui. C'est dans la même lignée.
En fait, merci pour cette présentation. Et j'ai une question, c'est que est-ce que vous avez des patients qui ont déjà testé le jeu, qui refusent de jouer juste à cause de le scénario,
par exemple ? Alors ça, on a pour ce scénario-là, on n'a pas encore regardé. Mais c'est vrai que quand on le voit, on se dit, c'est, bon, je vous ai présenté X-Torp qui est plus valence masculine, l'autre est plus valence féminine, mais c'est vrai que on a l'impression d'avoir un peu un jeu de bourrin, donc on n'a pas de retour là-dessus. Par contre, on a un autre jeu, si vous voulez aller sur le site, c'est Voracifish, qui était fait pour la rééducation des AVC. Au niveau de la Kinect, on est sur des dynamiques similaires. Et là, par contre, il y a des bons retours sur l'utilisation. Et nos partenaires, justement, au début, ils avaient fait un truc tellement simple que les patients, ils avaient l'impression qu'on les prenait un peu pour des bébêtes. Et c'est une fois qu'ils ont fait un jeu vidéo réel, avec les dynamiques de jeu vidéo, que là, les patients ont été intéressés et ont voulu se rééduquer.
Donc, merci, Grégory.
C'est surtout aujourd'hui, je pense, une barrière culturelle où il faut trouver pourquoi en faisant de la recherche et aussi trouver des solutions de management. Et le thérapeute a toute sa place là-dedans.